Quand même, vous avez constaté qu'on ne lésine pas sur les moyens technologiques dans Trudeau-Landry.
Les effets sonores.
Des effets sonores dans la roulette de nouvelles. On a ça, là, on peut le faire. On peut, hein? La fête au village. On va enfin avoir notre annonce de troisième lien à Québec, lundi.
J'aime ton expression, parce que oui, Québec, c'est un gros village. Puis sais-tu qu'on aime ça de même? On est bien là-dedans.
Ah, mais je le disais pas en ce sens-là.
Ah, mais moi, je l'ai pris comme ça.
Ah, non, c'est une expression, ça, que j'ai adoptée en travaillant avec Nathalie Normando.
Ouais.
Qui, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, c'est tout le temps, c'est son expression.
C'est
la fête au village.
Ben oui,
c'est ça, mais je le disais pas dans le sens que...
Ben moi, je l'ai pris comme ça.
OK, mais c'était pas... Hey, mon Dieu, non, c'était pas ça que je voulais
dire. Ben, moi, sais-tu quoi? Je suis content que Québec soit un village. J'aime ça vivre dans un village urbain.
Ben,
c'est un village urbain.
Mais tu sais, j'aime pas quand Québec est désigné de gros village, là, tu sais.
Ah, j'adore ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
Plus que ça.
J'adore ça. Il y a une proximité. Tout le monde ou à peu près se connaît, mais en même temps, non, moi, j'ai aucun problème avec cette expression-là. Moi.
OK. Je sais que Raphaël Jacob est sur la ligne.
Oui.
Il attend de nous parler. Il piaffe d'impatience, mais quand même, à un moment donné, on a aussi des responsabilités de donner de l'actualité aux gens. Il faut que ce soit frais de lorsqu'il y a des nouvelles.
C'est de l'essentiel.
Ben,
aussi,
lorsqu'il y a des nouvelles brûlantes, il faut les donner. Climat Québec, tout le monde. Climat Québec, retenez ça.
C'est un ministère,
ou
ça?
Pas.
C'est quoi, là?
C'est le nouveau parti politique de Martine Ouellet qui a été annoncé au cours des 15 dernières minutes. Martine Ouellet, qui, telle une habile communicatrice politicienne, grande stratège, avait semé des petites vidéos depuis ce matin de gens qui l'appuyaient, comme par exemple Catherine Bouchard Tremblay, qui était une coordonnatrice pour Extinction Rebellion, là. Oui, ceux qui ferment des ponts à Montréal, là, qui montent des structures puis qui paralysent la circulation. Et là, finalement, elle a annoncé donc la mise sur pied de Climat Québec. Alors, Climat Québec, ça va être un parti politique souverainiste environnementaliste. Tu sais, c'est comme quand tu commandes une pizza ou des sushis, là, tu coches ce que tu veux, là, tu sais, souverainiste, oui, parfait, environnementaliste, pas de problème, extrémiste, bon, genre de voir, là, est-ce que Martine Ouellet va se mettre à monter dans les structures, j'en reviens pas.
Bref. Ça fait quasiment pitié, là.
Ça fait quasiment pitié. Martine Ouellet qui revient en politique après avoir scrappé le Bloc québécois, presque. Alors voilà, Martine Ouellet qui fait cette annonce-là. On en reparlera ou pas. Un peu plus tard.
Pas nécessaire.
On va parler donc de politique américaine avec notre collègue et ami chercheur associé à la chaire, Raoul Dandurand, Raphaël Jacob. Salut Raphaël, je m'excuse de t'avoir fait attendre.
Ouais, mais je prends des excuses parce que tu disais il y a un instant que ça faisait pitié. Je trouve que présentement, je fais pitié. Passer après la nouvelle sur ce nouveau parti-là, si on peut l'appeler ainsi.
Les priorités.
Ça fait mal.
OK, donc tu te présenteras pas pour eux. Alors, premier élément de nouvelle, Raphaël Jacob ne se présentera pas pour Climat Québec.
Pourquoi tu donnes le scoop en partant? Il y a rien qui dit que j'allais pas t'annoncer ça dans les prochaines minutes, si seulement tu m'avais laissé la chance.
Ah, OK, bon, je m'excuse. Raphaël, il faut qu'on parle absolument de ce qui se passe aux États-Unis. On en a discuté un peu en ouverture d'émission. C'était très, très fort, cette image-là, de voir Joe Biden sans masque et Kamala Harris, suite à la recommandation du Centre de prévention et de lutte contre les maladies, qui a dit, si vous êtes vacciné, si vous êtes protégé, vous pouvez laisser tomber le masque et la distanciation.
Et sais-tu quoi? Dans tout ce que tu viens de dire, il y a un mot qui est clé. C'est recommandation. Je pense qu'il y a une espèce de d'incompréhension, de manque de compréhension de ce côté-ci de la frontière, parce que lorsqu'on entend quelque chose de la santé publique, c'est plus qu'une recommandation. Ici, souvent, c'est un ordre, c'est un décret, et il y a une consigne qui est accompagnée d'amendes si on la suit pas. Aux États-Unis, ce que les CDC font, c'est émettre essentiellement des suggestions, des recommandations. Maintenant, ces recommandations-là, des fois, sont suivies, des fois, elles ne sont pas suivies, des fois, elles sont suivies en partie. Donc, dans le cas de ce qui a été fait avec le masque hier, je pense que le pouvoir de ça, c'est surtout au niveau, je pense que ce mot-là aussi, tu l'as utilisé, là, c'est symbolique. Mmh. C'est que là, c'est la plus importante agence de santé publique, en fait, en Amérique, là, clairement, qui sort avec cette conclusion-là. Donc, c'est très, très gros au niveau du pouvoir d'influence, mais c'est pas un pouvoir qui est légal. Donc, il n'y a aucune juridiction qui est nécessairement obligée de suivre ou non. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on le voyait déjà depuis les dernières semaines. C'est-à-dire que il y avait des États où on avait été, disons, beaucoup plus empressés de laisser de côté ce genre d'obligation-là. Donc, il y a plusieurs États où ce n'était déjà plus obligatoire de porter le masque, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'inverse, et ça aussi c'est intéressant, depuis ce matin, il y a certains endroits où on dit, non, on va garder le masque pour l'instant à l'intérieur, même si les CDC disent qu'on peut le laisser de côté. Fait que, tu sais, ça vous montre que lorsqu'il est question de cette pandémie-là, aux États-Unis comme avec tellement d'autres dossiers. La composante politique puis partisane est tellement importante que le masque est depuis longtemps rendu un symbole aussi politique. Mm-hmm. Fait qu'il y en a qui en voulaient jamais. Eux ont jamais écouté les CDC quand ils recommandaient d'en porter un. Et à l'autre extrême, t'as d'autres politiciens qui disent non, même si eux nous recommandent de plus le garder, on va le garder. Fait que c'est un symbole qui est rendu identitaire carrément.
Mais j'ai trouvé que le symbole était encore plus fort hier, Raph, parce que c'était justement Joe Biden. Puis Joe Biden, tu sais, quand il a succédé à Trump, tu sais, Trump, c'était pas le gars qui prônait ça nécessairement beaucoup, hein.
Au
Et
contraire.
Lui, Joe Biden a beaucoup joué cette carte-là quand il est arrivé. Donc, de le voir, lui, enlever le masque avec Mme Harris, puis aussi l'aspect de la distanciation sociale. Là,
ouais.
Il y avait pas de distanciation. Moi, j'ai trouvé ça encore plus fort. T'as raison, tu sais, c'est une recommandation, mais tu sais, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux dans des bureaux de journalistes, entre autres, où les gens ont déjà enlevé le masque hier.
Ouais.
Ça venait juste d'être proclamé.
Oui, puis écoute, je suis à 100% d'accord avec toi que, en fait, Donald Trump, je sais pas si tu te rappelles de ça, quand il était rentré de l'hôpital, tu sais, suite à son ouais, infection, à son ouais, hospitalisation, puis il y avait eu cette espèce de marche là, hyper dramatique sur le gazon de la Maison-Blanche, était arrivé devant la Maison-Blanche, il avait enlevé son masque de façon dramatique. Bon, on s'entend que ça n'a pas la même portée, effectivement, encore une fois, symboliquement, que Joe Biden, qui était farouchement pro-masque depuis le début, qui lui l'enlève. Même chose pour sa vice-présidente. Fait que c'est sûr que ça envoie un signal hyper clair à l'ensemble du monde que, en tout cas, pour ce qui est des États-Unis, cette crise-là, oui, malheureusement, va continuer à faire des infections et des décès, mais pour ce qui est des mesures vraiment musclées là, pour la confronter, c'est très, très largement derrière nous. Ou en tout cas, ça va être très largement derrière nous dès le mois prochain. Parce que les États les plus importants, qui étaient les plus restrictifs, comme la Californie, l'avaient déjà annoncé cette semaine. Mi-juin, c'est fini. Puis quand je dis c'est fini, je parle de pratiquement tout. Le masque à l'intérieur, à l'extérieur, fini. Les impositions, par exemple, de capacité maximale dans les établissements, d'à peu près tout type, c'est fini. Les fermetures d'à peu près tous les de n'importe quel type de commerce, c'est fini. Fait que on retourne dans les prochaines semaines carrément là, presque à la grandeur du pays, à la normale.
Mais c'est quoi le plancher qui a été fixé? Parce que nous, bon, ici, les gens parlent de 75% de chaque groupe vacciné. On a beaucoup parlé de l'exemple de la Saskatchewan qui, pour chaque tranche d'âge, faut atteindre le 70%. Là, je voyais, bon, c'est environ 35% de la population américaine qui ont reçu soit la dose unique de Johnson et Johnson ou deux doses. 153 millions, je pense, de personnes qui ont reçu au moins une dose. Donc, on est dans quoi? Dans le 50%, pas tout à fait.
60 à peu près quand tu comptes les okay, adultes, ouais.
OK, OK.
Fait que tu me demandes c'est quoi le
donc,
benchmark.
On pourrait s'inspirer de ça. C'est juste intéressant. Je pose la question pour nous.
Ben oui.
Ben écoute, je te dirais que c'est plus l'inverse. C'est-à-dire que s'il y a une juridiction qui semble avoir des, pour l'instant, là, comment tu le présentes, en tout cas, là, des critères plus clairs, c'est davantage ici qu'aux États-Unis. Parce que il n'y a rien scientifiquement, je veux le dire super clairement, il n'y a rien scientifiquement qui justifie que avant hier, les CDC ne recommandaient pas ça. Et hier, on commençait à recommander ça. On commençait à recommander que ben, les masques, on peut les laisser de côté. Il n'y a pas une nouvelle étude ou une méta-étude qui est sortie. Ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de juridictions importantes, notamment la Californie, qui sont sorties dernièrement en disant, écoutez, c'est fini les mesures. Puis là, je pense qu'il y avait un énorme risque au niveau de la crédibilité publique d'agences fédérales comme les CDC, d'être vu carrément comme étant déconnecté. Si c'est à peu près tout le monde aux États-Unis, à peu près toutes les juridictions qui déconfinent, qui enlèvent l'obligation de porter le masque, puis l'agence fédérale, elle, continue à dire, tu sais, Béong, non, il faut que tout reste. À un moment donné, c'est parce que les gens décrochent. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. C'était plusieurs scientifiques, notamment des scientifiques qui ont travaillé pour le gouvernement fédéral américain, qui disaient depuis des semaines dans les médias américains, écoutez, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que on suive la population. Oui, c'est beau d'imposer des mesures et de suggérer des mesures, mais à partir du moment où les gens nous écoutent plus, ça aussi, ça a une composante de santé publique qui peut être problématique. Fait que, tu sais, la réponse très, très claire, c'est que je peux pas te donner de critères fixes qui a été établi parce qu'il n'y a pas de critères fixes qui a été expliqué hier pour justifier ce changement de position-là. Il y a une énorme partie qui, encore une fois, qui est politique. Ce qui ne revient pas à dire, ça, je veux insister là-dessus, ce qui ne revient pas à dire que la pandémie est politique ou n'existe pas, puis tout ça, c'est bidon. C'est une pandémie qui est hyper réelle et hyper grave. En même temps, il y a une composante politique dans la façon de la gérer. Ça, ça mérite d'être dit quand même.
Hier, on a vu des élus républicains aussi. C'était-tu au Congrès ou au Sénat? Je me souviens pas trop, Raph, là, qui ont enlevé leur masque automatiquement aussi.
Il y a eu des deux.
Les caméras, il y a eu des deux. Puis je regardais aller aussi le gouverneur DeSantis en Floride. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être quoi l'impact, entre autres, sur la course à la succession de Donald Trump chez les républicains? On dirait que DeSantis en Floride est devenu comme le héros des gens plus à droite qui avaient, qui voulaient plus de liberté. C'est quoi l'impact de tout ça, à ton avis?
Ben, sais-tu quoi? Je vais te dire très franchement, je suis pas sûr. On se parle en mai 2021.
Ouais.
Je suis pas sûr, Jérôme, qu'il va y avoir une course à la succession de Donald Trump.
Oh, OK.
Et quand je te dis ça, c'est parce que plus les choses avancent, plus le temps avance, à moins qu'il y ait quelque chose qui sorte un petit peu du champ gauche, comme un problème de santé ou une accusation au criminel ou quelque chose comme ça, là, je te dirais que je trouve que Donald Trump fait absolument tout présentement, en coulisses, même si c'est moins visible, pour se repositionner, pour revenir lui-même comme candidat présidentiel du parti. Et non seulement ça, mais si c'est le cas, écoute, que ce soit Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, que ce soit Nikki Haley, l'ex-ambassadrice à l'ONU, que ce soit, on peut faire le line-up au complet de candidats présidentiels républicains. Écoute, je vais pas te faire des prédictions 3 ans à l'avance, là.
Ben non,
mais il va être drôlement dur, je crois, tout au moins d'emblée, là, à détrôner de son poste de figure dominante de ce parti-là. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça mérite d'être dit. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, peinent à concevoir que Trump puisse revenir. À l'heure actuelle, encore une fois, c'est assujetti à changement, mais à l'heure actuelle, je dirais que ça me semble être le scénario le plus plausible. Mmh. Pas le seul, mais le plus plausible. Fait que, une fois que ça s'est dit, pour des politiciens comme DeSantis, présumant que Trump ne revient pas pour peu importe quelle raison, oui, ça évidemment que ça lui permet de hausser son profil, ça c'est vrai depuis des mois auprès de la base républicaine, dans une campagne en 2024. Écoute, ce qui va être fascinant, ça va être de voir à quel point toute la question de la COVID, ça va encore être une préoccupation, tu sais, fondamentale à ce moment-là quand les gens vont commencer à aller voter. Ou est-ce que, au contraire, ça va être vu comme étant loin derrière nous? Je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que s'il y avait des primaires aujourd'hui, un type comme DeSantis, présumant encore une fois que Donald Trump était pas dans la course, là, un type comme DeSantis, je crois, aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages liés, tout au moins pour la base républicaine, à sa gestion de la pandémie. Mais écoute, on verra. Puis évidemment, dans une élection générale, c'est sûr et certain que les démocrates qui ont été beaucoup plus critiques de son approche, disons, beaucoup plus permissive, s'en donnera à cœur joie aussi. T'sais. Fait que ça serait fascinant, mais encore une fois, il n'y a pas d'élection cette année. Prochaines élections nationales, c'est l'an prochain, mi-mandat. Puis après ça, c'est 2024 pour la prochaine présidentielle.
Avant qu'on se laisse, Raphaël, je veux absolument qu'on glisse un mot sur ce qui s'est passé avec l'oléoduc colonial là-bas. Écoute, on a vu des scènes dans la dernière année un peu ridicules de gens qui se battaient pour du papier de toilette. Là. Mais quand on a, y a des gens qui se battent pour remplir des bidons d'essence parce qu'il y a une pénurie qui est anticipée parce qu'un oléoduc a été piraté, il y a quelque chose d'assez incroyable là, là-dedans.
C'est incroyable. Et c'est pas juste incroyable, Joe. Pour moi, c'est inquiétant. Parce que deux choses. Premièrement, c'est comme si on en avait presque pas parlé, là. Mais la raison de ce qu'on en comprend pour laquelle cet oléoduc-là va reprendre là, ses fonctions, c'est qu'on a payé la rançon.
C'est ça.
Et j'ose présumer qu'il s'agit pas d'une rançon de 2,50 $, là, tu sais. Fait qu'il y a ça et aussi ceci. Si on était capable de pirater et de faire payer une rançon pour ce qui est de l'oléoduc le plus important de toute la côte est américaine, ish! Tu sais, on se parle souvent de cybercriminalité comme une espèce de menace abstraite. Là, on le voit, là, comment ça peut être concret. Et tu sais, tu parles de gens qui se battent. Juste pour mettre ça en perspective, là, cette semaine, on avait des États majeurs, là, pas des petits États, des États majeurs comme la Virginie, comme la Caroline du Nord, des États de la côte Est, où c'était la majorité. Dans le cas de la Caroline du Nord, c'était presque les trois quarts des stations-service de l'État qui avaient carrément plus d'essence. Là. Tu sais, c'est fou quand tu penses à ça, comment ça peut carrément faire dérailler une société. Là, il est question d'une attaque, d'une cyberattaque, d'un oléoduc. Fait que c'est très, très lourd d'implications potentielles.
Tu sais, je veux pas tomber dans des théories là, apocalyptiques, mais tu sais, il me semble qu'il y a pas si longtemps que ça, quand on parlait des maux qui menaçaient la planète, on n'était plus dans les grandes guerres, on était dans le terrorisme. À un moment donné, on était dans les armes bactériologiques, armes chimiques. Mais là, on se rend compte que plus rapidement que ça, c'est la technologie, c'est l'informatique qui va pouvoir devenir une arme tabarouette très, très, très dangereuse. Là.
Absolument, tu as absolument raison. Et je suis sidéré par le manque relatif là, de couverture médiatique de cette problématique-là pardon, depuis des années. Puis regardez juste, par exemple, ça sera pour une autre discussion, là, mais ce que la Chine, ce que le gouvernement chinois fait avec plusieurs de ses rivaux politiques, justement, en utilisant le piratage puis les cyberattaques. Écoute, tu peux mettre des grands pans d'une société à genoux avec cette arme-là. Fait que ça a l'air beaucoup moins concret que justement des armes, en guillemets, plus conventionnelles ou des armes biologiques ou des armes chimiques. Mais ça peut dévaster, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Fait que pour moi, c'est un avertissement, un énorme avertissement. Fait que peut-être qu'on s'en sort cette fois-ci, que là, l'oléoduc reprend son cours, puis bon, le prix à la pompe redescend, puis les stations-service recommencent à fournir normalement. Mais tu sais, pendant combien de temps? Et jusqu'à quelle autre attaque qui va cibler quel autre pan de la société? Grosse question.
Raphaël, on te souhaite un excellent week-end. On se reparle très bientôt.
Même chose, messieurs.
Bye-bye. Salut.
Merci, Raphaël. Jacob de la chaire Raoul Dandurand, notre spécialiste en politique américaine. Il est 10h presque 46. On doit faire une pause. On s'arrête dans Trudeau-Landry. On revient.